experience the world premiere of Flora, a powerful story of resilience and renewal, presented by the Australian Ballet and Bangarra Dance Theatre. This bold new dance collaboration takes you on a journey through the evolution of Australian flora, bringing together artists drawn from two of Australia's leading dance companies. Flora promises to be unmissable. Journey through our living history in this unique dance experience. Visit australianballet.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, troisième partie de notre épisode consacré à l'ancien Premier ministre John Howard. On s'intéresse dans celui-ci plus particulièrement aux politiques qu'il a mises en place vis-à-vis des aborigènes, mais aussi aux discours qu'il s'est mis à prononcer à l'endroit, par exemple, des immigrés, des demandeurs d'asile, mais aussi plus spécifiquement des musulmans. C'est une période au cours de laquelle John Howard se radicalise très nettement. Très bonne écoute à tous, nous sommes comme d'habitude avec l'historien Romain Fati. Et alors un autre sujet où effectivement il se démarque énormément de ses prédécesseurs travaillistes, c'est la question des aborigènes. Vous nous disiez tout à l'heure qu'en 96 il fait campagne sur le thème de One Australia, qui indirectement est un petit peu un rejet du culturalisme et on va dire des origines précoloniales de l'Australie. Et alors là, ça couvre pas ces quatre mandats. Il n'y a pas de moment spécifique sur lequel je voudrais m'arrêter, mais qu'il s'agisse donc de la question des droits à la terre pour lesquels il y a eu une ouverture assez importante juste avant sous l'égide des travaillistes, sur la reconnaissance d'un certain nombre de crimes commis par le passé, notamment la question des générations volées. Là, il y a un moment un peu clé qui n'est pas vraiment en sa faveur. Et puis finalement, il y a une loi qui est adoptée en 2007, la Northern Territory Intervention. Alors, ça fait quasiment trois sujets en un, mais c'est un sujet important sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne un peu en détail.
Oui. En fait, le sujet central, là, c'est la question des aborigènes et de John Howard. Et quelle est sa position là-dessus? C'est une position très clairement rétrograde, pour être très clair. C'est quelqu'un qui a fait énormément reculer le droit des aborigènes dès qu'il arrivait au pouvoir. C'est-à-dire que John Howard arrive après un moment d'ouverture. Bob Hawke avait promis un traité qu'il n'a pas su donner. Keating a eu un certain nombre d'avancées. On a parlé du discours de Redfern de 92, suivi par des législations. Et puis, c'est le moment où différents tribunaux australiens reconnaissent que la colonisation britannique a dépossédé les aborigènes. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il faut enclencher un processus de reconnaissance de cette prise de contrôle par les Britanniques et puis les Australiens, et donc peut-être retourner les terres aux aborigènes, les leur rendre. Il y a une décision de justice qui s'appelle WIC, W-I-K, en 96 de mémoire, et cette décision reconnaît qu'il y a des terres pastorales qui en fait devraient être rendues aux aborigènes. Et alors là, lever le drapeau chez les personnes du Bush, qui sont généralement très conservatrices, plutôt de droite, et de la frange de droite du parti allié de John Howard, le Country Party et les Nationals. Et donc John Howard doit intervenir, non seulement parce que politiquement il est en danger, mais parce qu'il est aussi en accord idéologiquement. Et alors, pour répondre à la décision de justice WIC, il met en place le plan en 10 points, le 10 points plan, qui grosso modo met le holà aux avancées sur les droits aborigènes. Et c'est non seulement son opposition, elle est non seulement légale, c'est-à-dire qu'il contraint, il réduit les possibilités de rendre, de restitution des terres aux aborigènes, mais aussi il s'attaque à des institutions aborigènes comme l'ATSIC par exemple, qui était un comité national aborigène que lui trouve corrompu, inefficace, trop orienté vers la symbolique, c'est-à-dire la question de l'hymne, du drapeau, des questions trop politiques pour lui. Et John Howard dit, moi, je suis pour la réconciliation, mais une réconciliation pratique. Je veux pas qu'on parle de politique, je veux pas qu'on parle de massacre, je ne veux pas qu'on parle de choses qui fâchent, mais je veux bien qu'on parle de la santé des indigènes, je veux bien qu'on parle de l'éducation, mais il faut que ce soit d'autres modèles, parce qu'on est une Australie, et de préférence la mienne. Donc c'est quelqu'un qui très tôt est contesté chez les populations aborigènes, parce qu'il est très réactionnaire, et non seulement il freine les avancées des décennies passées, mais en fait il revient sur ses acquis. C'est quelqu'un qui a fait énormément de mal à la cause aborigène, qui refuse de présenter les excuses gouvernementales vis-à-vis, par exemple, de la génération volée, ces enfants aborigènes qui ont été pris de leur communauté pour être éduqués de façon occidentale, si vous voulez. Il est vraiment en retard là-dessus.
Alors, juste pour terminer sur les aborigènes, on l'a donc vu, il y a d'une part un recul des avancées concrètes qui ont pu être obtenues par le passé pour les aborigènes, il y a un refus total de revenir sur un certain nombre de mesures plus symboliques, comme par exemple présenter des excuses pour les crimes du passé. Et puis finalement, il y a un volet répressif particulièrement brutal et accessoirement, enfin vous nous direz, mais a priori assez inefficace, qui se manifeste donc à travers cette politique dite de la Northern Territory Intervention. C'est quoi cette intervention?
Alors, il y a un rapport qui est produit au milieu des années 2000, 2006 de mémoire, et qui atteste que dans certaines communautés aborigènes, il y a des violences sexuelles vis-à-vis d'enfants. Et John Howard utilise, si vous voulez, ce rapport pour dire, oh là là, il faut intervenir, ça va pas du tout. Vous voyez, les aborigènes dans leur communauté ne sont pas capables de s'autogérer, et donc il faut qu'on rétablisse l'ordre. Et il déploie l'armée. Vous imaginez, vous, un État déployer l'armée contre sa propre population? Non seulement c'est violent, mais en plus c'est ultracolonialiste, et par rapport aux problèmes sociaux, c'est-à-dire éducation, sexualité, alcool, a priori, c'est pas l'armée qui est la plus qualifiée, ce sont des services sociaux, des médecins, des gens qui sont entraînés et compétents pour ces sujets, pas l'armée qui, elle, est entraînée à se battre et à défendre la nation. Et donc, l'intervention dans les territoires du Nord, elle s'est traduite par un énorme backlash entre les populations aborigènes et l'État fédéral australien, à un moment où John Howard avait démantelé la TIC, donc les représentants nationaux aborigènes, et donc, du point de vue, est-ce que cette opération a été une réussite? Très clairement pas. Mais elle a été continuée par les gouvernements successeurs de Howard, de droite comme de gauche, parce que, si vous voulez, l'aspect militaire a été, comment dirais-je, abandonné assez rapidement. Mais le fait qu'il y ait un décalage de niveau de vie, un décalage dans les opportunités qui sont présentées aux aborigènes dans les territoires du Nord, c'est encore une réalité. Et donc, toute intervention était jugée comme meilleure que pas d'intervention. Il y a eu des écoles qui ont été construites grâce à ces projets, des hôpitaux également, mais c'est pas joli joli, et en fait, ça n'a pas vraiment porter ses fruits. Donc,
et par ailleurs,
beneath the cracked clay, a seed unfurls. Leaf, bloom, life, promise. Crossing time and space. Experience Flora, a powerful story of resilience and renewal. Presented by the Australian Ballet and Bangarra Dance Theatre. This bold new dance collaboration traces the evolution of Australian flora. Journey through our living history in this unique dance experience. Visit australianballet.com.au.
Three iconic Australians experience firsthand what it takes to save a life.
Oh my gosh.
Terrifying.
I have no idea what I'm about to do.
The Hospital in the Deep End. Stream free on SBS On Demand.
Question.
Ouais. Dites-moi si je me trompe, mais en plus, la raison qui a justifié toute la mise en place de cette politique, des cas, en gros, de pédophilie dans un certain nombre de communautés aborigènes isolées, en fait, si on regarde les statistiques, évidemment, il y en a, comme il y en a partout ailleurs dans la société, malheureusement, mais pas particulièrement plus que qu'au sein du reste de la population australienne.
Alors, j'ai pas les statistiques en tête, mais la proposition que vous faites est correcte, dans le sens, en réalité, c'était quelque chose qui était dans les cartons pour John Howard, qui en avait assez de la question aborigène, qui s'opposait à certaines revendications aborigènes de façon assez assez farouche. Et en réalité, c'est un peu l'ère des spin doctors, vous savez. Comment les communicants peuvent utiliser la perception des gens pour mener certaines politiques. C'est le grand moment des spin doctors aux États-Unis et John Howard est à fond là-dessus. Et il en bénéficie à de nombreux égards. John Howard, c'est la politique de la peur des aborigènes qui vont prendre votre jardin, n'importe quoi, la peur des immigrants qui vont arriver par dizaines de milliers en bateau, n'importe quoi. La peur du terrorisme islamiste qui va envahir l'Australie, n'importe quoi. Enfin, c'est un problème bien plus mineur que pour d'autres pays. C'est quelqu'un qui a mené une politique de la peur sur quasiment tous ses mandats. Et c'est comme ça qu'il se fait réélire en 2001. En 2001, alors déjà que l'élection de 98, il n'allait pas... Il n'était pas donné gagnant en 2001, il était donné quasiment perdant vis-à-vis des travaillistes. Après des années de John Howard, donc quasiment 5 ans et demi, il va à l'élection de 2001 en pensant, enfin peut-être pas que lui il pensait qu'il allait perdre, mais disons qu'il était donné perdant, et le 11 septembre. Et alors là, changement radical, qui lui fait un bien fou politiquement, il se radicalise. Mais même avant le 11 septembre, il y a l'affaire du Tampa. Le Tampa, c'est un énorme bateau norvégien qui recueille des migrants afghans en détresse au nord de l'Australie. On est en août 2001, c'est-à-dire un mois avant le 11 septembre. On est dans le monde de l'avant 11 septembre. Et John Howard est déjà radicalisé. Et il dit au capitaine du bateau, vous n'accosterez pas en Australie. C'est hors de question. Vos migrants, nous n'en voulons pas. Mais le capitaine dit, attendez, moi je suis obligé par le droit des mers de porter secours à toute personne en détresse. Qu'est-ce que je vais faire de ces dizaines, je crois qu'il y avait plus d'une centaine de rescapés dans un bateau qui n'est pas conçu pour les accueillir. Ils doivent les mettre sur le pont, ils sont exposés au soleil, il n'y a pas assez de nourriture. Enfin, c'est une réelle torture. Et John Howard, si vous voulez, montre ses biceps aux Australiens en disant, vous voyez, moi, l'immigration, je ne laisse personne rentrer. Il n'y aura pas d'insécurité dans mon pays. Et donc, dès avant cette élection-là, on sent qu'il vraiment... il glisse progressivement. Et alors le 11 septembre lui donne une plateforme électorale fabuleuse en disant nous devons nous défendre, et quoi de mieux qu'une politique musclée contre l'immigration, une politique culturelle où on est pro-Australie, une nation unie et de droite. Et souvent les situations de crise de toute façon favorisent les leaders en poste parce que ils sont synonymes de continuité. Donc John Howard, l'élection de 2001 n'était pas du tout acquise et sa rhétorique de peur l'a emporté.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver dans quelques jours pour la quatrième et avant-dernière partie de notre épisode consacré à John Howard. Merci de nous avoir écoutés et donc à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Experience the world premiere of Flora, a powerful story of resilience and renewal, presented by the Australian Ballet and Bangarra Dance Theatre. This bold new dance collaboration takes you on a journey through the evolution of Australian flora, bringing together artists drawn from two of Australia's leading dance companies. Flora promises to be unmissable. Journey through our living history in this unique dance experience. Visit australianballet.com.au.